20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Le Code Noir, ainsi désignait-on l'ordonnance royale qui réglementait le sort des esclaves dans les colonies françaises jusqu'en 1848. Le Code Noir, c'est aussi le titre d'un opéra d'un certain Louis Clapisson, un ouvrage militant s'inscrivant dans une démarche abolitionniste et qui n'avait jamais été redonné depuis le 19e siècle. Il renaît aujourd'hui grâce à Jérôme Coréas, qui le dirigera ces prochains jours au Perreux-sur-Marne et à l'Opéra de Massy. Jérôme Coréas sera à cette occasion notre invité ce soir. Et puis, nous nous plongerons dans l'enfance avec Piccolo et Saxo, célèbre conte musical d'André Pop, qui sera à l'affiche dimanche matin au Théâtre des Champs-Élysées. Mais pour commencer, d'autres rendez-vous à noter sur vos agendas. Le Barbier de Séville de Rossini ouvrira la nouvelle année de l'Opéra de Paris dans la production mise en scène par Damiano Micheletto et sous la direction de Carlo Montanaro avec notamment Florian Sempé en Figaro et Lisette Oropesa en Rosine. Une production à découvrir dès demain, du moins si le préavis de grève est levé. L'Opéra de Paris invite les spectateurs à consulter son site, nous avertissant pour le moment que le bon déroulement de la représentation de samedi pourrait être remis en cause. À l'Opéra Royal de Versailles, c'est la musique de Mozart qui résonnera ce week-end. Une flûte enchantée, mais dans une version française, mise en scène par Cécile Roussa et Julien Lubeck, avec Florie Valiquette, Mathias Vidal, Marc Scovoni ou encore Chantal Santon-Geffrey dans la distribution, et avec dans la fosse Hervé Niquet et son concert spirituel. La première de cette flûte enchantée en français, c'est ce soir, en ce moment même. Suivront trois représentations, samedi, dimanche et mardi soir. Le quatuor à cordes est à l'honneur à la Philharmonie de Paris et cela jusqu'au 19 janvier à l'occasion de la nouvelle édition de la Biennale de quatuor à cordes à laquelle participeront quelques-uns des meilleurs ensembles du moment, du jeune et brillant quatuor Van Cuyck aux Artemis, Jérusalem, Borodine, Arditi ou encore Modigliani. Ils se partageront notamment l'intégrale des 16 quatuors de Beethoven, Beethoven dont la musique dialoguera dans chaque concert avec celle de ses prédécesseurs ou de compositeurs qui ont poursuivi après lui l'exploration du genre, et cela jusqu'à aujourd'hui. Thank you. Le deuxième mouvement du 13e quatuor de Beethoven par le quatuor Artemis. Le quatuor Artemis qui jouera ce même 13e quatuor le 16 janvier à la Cité de la Musique dans le cadre de la Biennale du Quatuor à cordes, biennale au cours de laquelle sera donc donnée une intégrale Beethoven.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Notre invité ce soir, Jérôme Coréas, chef de l'ensemble Les Paladins, qui dirigera ses musiciens le 16 janvier au Centre des Bords de Marne, au Péreux, ainsi que le 31 janvier à l'Opéra de Massy, dans un ouvrage oublié du 19e siècle, ouvrage intitulé Le Code Noir, un opéra de Louis Clapisson, écrit en 1842 pour l'Opéra Comique et dont la partition dormait depuis le 19e siècle dans des tiroirs. Jérôme Coréas nous raconte ce soir sa découverte de cette œuvre qui traite de la question de l'esclavage, une œuvre écrite 6 ans avant son abolition.
On m'a recommandé surtout le livret, qui était un livret très puissant, très fort, puisqu'il s'agit d'un opéra militant à l'époque où l'esclavage n'était pas encore aboli. Et on m'a dit, tiens, tu devrais lire ce livret qui est très fort et avec une histoire très prenante et avec des enjeux, ce qui est toujours très intéressant dans un opéra parce que il n'y a pas toujours des histoires passionnantes dans les opéras, il faut bien le dire. Et j'ai lu ce livret que j'ai trouvé absolument formidable. Je suis allé voir la musique par curiosité. J'avoue que je ne connaissais pas du tout Clapisson.
Je crois qu'on est très peu de personnes le connaissent. Hein.
Mais c'est vrai que c'était un nom qui m'était inconnu, qui sonnait pas forcément bien d'ailleurs pour moi, Clapisson. Bon, c'était pas très poétique. Et je suis allé voir à la Bibliothèque nationale cette partition. Il n'en reste une. Et j'ai été très étonné de cette musique. J'ai trouvé qu'on rencontrait plein d'échos à des musiques qui allaient suivre ou qui avaient précédé. Je me suis rendu compte que vraiment Clapisson était un peu à un carrefour dans ces années 1840, à un moment où la musique devient extrêmement dramatique, très très riche, très orchestrée. Et j'ai trouvé la musique formidable. Et donc voilà.
Et vous êtes un petit peu renseigné sur Louis Clapisson, j'imagine. On dit que Berlioz l'admirait, que Bizet le détestait.
Alors effectivement, donc je suis allé voir les critiques que faisait Berlioz à cette époque. Berlioz a fait la critique de la première du Code Noir. Très encourageant pour moi de voir que Berlioz, que j'aime énormément, a trouvé que c'était un ouvrage formidable, très bien écrit, avec beaucoup d'habileté, en particulier pour les voix, mais aussi pour l'instrumentation, et puis l'expressivité aussi de cette écriture. Et puis alors, effectivement, Bizet le détestait parce que Clapisson a eu tout pour lui. Il a eu le prix de Rome, que Berlioz d'ailleurs n'a pas eu la même année. Ensuite, il a été nommé à l'Institut, que Berlioz n'a pas été nommé non plus. Donc, il prenait beaucoup de place, Clapisson. Il a eu beaucoup d'honneurs. C'était un compositeur assez officiel. Et la génération des Bizet-Gounod le détestait parce que, tout simplement parce qu'il voulait prendre sa place.
Écoutez un petit extrait de ce Code Noir de Louis Clapisson, capté en novembre dernier à Quimper au Théâtre de Cornouailles, dans cette production que vous dirigez, Jérôme Coréas, avec vos paladins et que vous redonnerez le 16 janvier au Centre des Bords de Marne du Péreux et le 31 janvier à l'Opéra de Massy. Alors le Code Noir, ce titre, le titre de cet ouvrage de Clapisson, fait référence à l'ordonnance royale qui réglementait le sort des esclaves dans les colonies françaises jusqu'en 1848. L'ouvrage a été écrit en 1842, donc 6 ans avant l'abolition de l'esclavage. Est-ce un opéra qui s'inscrit dans une démarche abolitionniste ou est-ce tout simplement un opéra qui suit la vogue, la mode du moment, très porté vers l'Orient, vers un goût de l'exotisme?
Alors, certainement les deux, et c'est ce qu'on s'est dit avec le metteur en scène Jean-Pierre Barrault qui met en scène la production. Il y a un aspect extrêmement militant, parce qu'il faut savoir que Clapisson et Eugène Scribe, le librettiste, ont signé tous les deux une pétition pour l'abolition de l'esclavage en 1840. Donc ça veut dire qu'ils étaient quand même très engagés pour ce progrès social. Et puis il faut savoir aussi que Victor Schœlcher, qui est l'homme par qui effectivement l'abolition a eu lieu en 1848, hein, au début de la Seconde République, il était allé aux Antilles à la fin des années 1830 et il avait constaté la situation épouvantable des esclaves et leur vie terrible. Il avait écrit un livre qui avait fait beaucoup de bruit et donc tout ça, c'était un petit peu une sorte de creuset. Les mentalités étaient en train d'évoluer. On savait qu'il fallait abolir l'esclavage. Et c'est dans ce contexte que nos deux auteurs, finalement, ont composé cette œuvre. Et je pense que c'est les deux. Il y a ce côté exotique avec les îles, la chaleur, etc. Et en même temps, la volonté de faire réfléchir les gens.
Oui, puisque cette histoire est assez violente, elle met en avant, elle pointe la violence du colonialisme français.
Oui, c'est une histoire très violente et c'est vrai que le Code noir, donc qui remonte à la fin du XVIIe siècle et qui était perçu sous Louis XIV comme quelque chose d'assez humain, eh bien évidemment au XIXe siècle, on est passé par le XVIIIe, les encyclopédistes, on réfléchit quand même sur voilà les Lumières, on réfléchit sur ce que c'est qu'un être humain, le respect qu'on doit lui porter, quel qu'il soit. Et à cette époque-là, donc au XIXe siècle, eh bien ce Code noir semble complètement monstrueux et donc il y a une grande violence et une histoire évidemment très romantique. On est en plein romantisme avec des histoires d'amour contrariées, mais effectivement avec ce Code noir qui est très présent et avec cette situation incroyable où on voit un héros qui arrive, noble lieutenant de la marine française avec son joli uniforme et dont on découvre que c'est le fils d'une esclave et que comme tel, selon le Code noir, il doit être vendu comme esclave. Donc j'imagine que les gens qui ont assisté à l'opéra comique, à ce spectacle, ont dû se dire mais finalement ça peut arriver à n'importe qui d'être esclave et ça a dû les faire réfléchir.
Alors comment justement Louis Clapisson traduit-il en musique la violence de ce sujet? Comment décririez-vous l'écriture de Clapisson, Jérôme Coréas?
Alors c'est une écriture sur laquelle on a beaucoup échangé lors des répétitions. Parce que c'est une écriture qui a fait des petits, si vous voulez. C'est-à-dire que Verdi est venu à Paris, il a écouté beaucoup de musique française et évidemment il s'en est inspiré. Et parfois on avait l'impression d'entendre du Verdi, parfois on avait l'impression d'entendre des mélodies de Gounod. D'un seul coup on a l'impression d'entendre Faust ou Roméo et Juliette. Et alors on plaisantait entre nous en se disant mais finalement Clapisson a tout inventé. il est à l'origine de tout. Donc il fait partie de ces compositeurs par lesquels on comprend ce qui se passe musicalement dans une époque. Et c'est un compositeur qui aime beaucoup le côté très théâtral, le côté très déclamé, et en même temps il adore les ensembles, il aime bien faire chanter. Alors il s'amuse beaucoup parce qu'il aime bien faire chanter plusieurs voix en même temps, mais qui disent des choses différentes. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup avec l'écriture et avec le côté théâtral et très expressif de la musique.
Et vous avez fait appel à des chanteurs noirs, des chanteurs métis et des chanteurs blancs pour l'occasion.
Voilà, l'enjeu c'était, étant donné qu'on a effectivement des rôles de personnes qui sont noires, des rôles de métis et des rôles de blancs, c'était de respecter, ce qui n'était pas évidemment le cas à l'époque, au XIXe siècle, pour les raisons qu'on devine, c'est-à-dire qu'il n'y avait évidemment pas de possibilité pour des chanteurs noirs de faire carrière en France, en Europe et surtout pas aux États-Unis d'ailleurs. Donc nous avons choisi effectivement des artistes noirs pour les rôles de noirs, des artistes métis pour les rôles de métis et des artistes blancs pour les rôles de blancs. Et ça, c'était très fort pour nous et en particulier aussi pour le metteur en scène, Jean-Pierre Barrault, qui est lui-même métis. Donc pour nous, c'était un mélange qui a été très fertile et très intéressant humainement, mais aussi artistiquement.
Voilà, donc ce code noir, c'est de Louis Clapisson, c'est à découvrir le 16 janvier au Centre des Bords de Marne, au Péreux, et le 31 janvier à l'Opéra de Massy avec vos paladins, Jérôme Coréas. Et on va évoquer maintenant une autre de vos actualités à venir pour cette année 2020, dédiée cette fois-ci à Lully.
Quel spectacle charmant, quel plaisir goûtons-nous, les yeux n'en ont pas d'air plus doux. Quel spectacle charmant, quel plaisir goûtons-nous, quel plaisir goûtons-nous. Quel spectacle charmant, quel plaisir goûtons-nous.
Un petit extrait du Bourgeois gentilhomme de Lully dans votre enregistrement, Jérôme Coréas, avec les paladins. Lully, un compositeur dont vous dirigerez un nouvel ouvrage à la fin du mois de mars, et ce sera à l'Opéra de Nice. Phaéton qui ne compte pas parmi les opéras les plus connus de Lully, mais qui a connu un vif succès à sa création en 1683.
Oui, c'est vrai que Phaéton était un des opéras préférés de Louis XIV, qu'il l'a vu plusieurs fois. Il faut dire que le sujet, évidemment, avait tout pour lui plaire, et c'est vrai que remonter aujourd'hui à un opéra de Lully, c'est toujours une grande aventure. Et je suis très heureux que l'Opéra de Nice m'ait demandé de diriger cet opéra en compagnie du metteur en scène Eric Oberdorf, qui est aussi chorégraphe. Il va y avoir une direction nettement chorégraphique et spatiale pour cet opéra, et ça tombe bien puisque Phaéton, ça parle du soleil, ça parle des astres, ça parle du pouvoir et ça parle effectivement du monde en ce qu'il a de dangereux vis-à-vis du pouvoir que l'on désire et auquel on n'est pas forcément destiné, comme c'est le cas de Phaéton.
Oui, qui est une œuvre d'une grande force théâtrale, d'ailleurs, très puissante, hein, Phaéton.
Oui, mais moi je suis toujours très attiré par les œuvres très, très fortes et assez violentes et très théâtrales. Je trouve que c'est là qu'on se réalise le mieux, ouais. Et qu'on trouve plein de choses.
Et vous dirigerez l'Orchestre Philharmonique de Nice, qui joue donc sur un instrument moderne.
Ah voilà, alors ça va être l'enjeu également, et je trouve que c'est très intéressant et très courageux de la part de l'Opéra de Nice, de tenter cette expérience, parce que je pense que c'est très important que les musiciens qui jouent sur instruments modernes puissent également être capables de jouer ces musiques du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle qui n'ont pas l'habitude de jouer, et finalement de passer d'un répertoire à l'autre, et je trouve que c'est un bienfait, et puis ça va être très intéressant également pour nous tous de nous confronter à ce son qu'on va essayer de trouver ensemble.
Et qu'est-ce que cela vous apporte à vous-même, Jérôme Coréas, de diriger des orchestres qui jouent sur instruments modernes ?
D'abord, l'ouverture d'esprit de ces orchestres est parfois très intéressante, parce qu'on rencontre des gens qui eux-mêmes aiment beaucoup des musiques qui ne jouent pas forcément, qui sont très contents d'avoir cette opportunité. Parfois, ça débouche, comme ça a été le cas à l'Opéra de Rouen, quand j'avais dirigé il y a quelques années un opéra de Haydn, La Vera Costanza, sur une possibilité de jouer avec des archers classiques, par exemple. Donc, c'est un enrichissement parfois pour les musiciens quand on leur donne la possibilité de prendre un petit peu de temps pour élargir justement leurs compétences. Plus on fait des musiques différentes, en fait, et plus on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se retrouvent, et souvent les musiciens sont très heureux de ne pas jouer toujours les mêmes choses, mais d'un seul coup de s'attaquer à quelque chose de complètement différent. C'est une aventure pour eux, c'est une aventure pour moi, c'est une aventure pour les chanteurs également. Et je pense que ça ne peut être que bénéfique, et puis pour le public également. Voilà, de découvrir un opéra de Lully, l'opéra de Nice n'en a jamais donné. Voilà, c'est aussi quelque chose de passionnant.
Voilà, une aventure dont on pourra profiter les 27, 29 et 31 mars à l'opéra de Nice, ce phaéton que vous dirigerez, Jérôme Coréas, dans la mise en scène d'Éric Oberdorf, et juste avant, au mois de janvier, les 16 et 31 janvier, au Perreux et à l'Opéra de Massy, ce sera le Code Noir de Louis Clapisson. Merci beaucoup Jérôme Coréas d'être passé nous voir.
Merci à vous.
Soprano Sandrine Pio, accompagnée ici par Jérôme Coréas et ses paladins, dans un air d'Assis et Galatée de Lully, dont Jérôme Coréas dirigera l'opéra Phaéton au mois de mars à l'opéra de Nice, mais aussi tout un florilège d'air et de duo extrait de ses plus célèbres ouvrages, le 5 mars aux Invalides, avec la soprano Amel Brahim Djelloul et le haut contre Jean-François Lombard, un programme intitulé Le triomphe de l'amour.
Le journal du classique sur Radio Classique.
Il y a dans ce conte musical, quelque peu oublié, une bonne part de ma vocation de musicienne, d'amoureuse de la chose symphonique, un souvenir ému et toujours présent de l'écoute de ce vieux 33 tours, la voix de François Perrier narrant les aventures de deux garnements, un piccolo et un saxophone soprano. Ainsi écrit la chanteuse Juliette, qui ce dimanche fera justement ressurgir quelques doux souvenirs de son enfance et peut-être de la vôtre également, si comme elle, vous avez été bercé par ce délicieux conte musical d'André Pop, Piccolo, Saxo et compagnie, dont Juliette sera justement la récitante dimanche à 11h au Théâtre des Champs-Élysées, aux côtés des musiciens de la Garde républicaine. Un conte qui s'accompagnera d'un voyage autour du monde, passeport pour Piccolo et Saxo, à la découverte d'instruments emblématiques d'autres cultures. Le voyage initiatique le plus charmant qu'on puisse rêver, prenez place à bord du bateau de la musique qui accoste toujours au rivage de l'enfance, nous dit Juliette. Et pour vous mettre dans l'ambiance, que diriez-vous de vous plonger quelques instants dans l'œuvre d'André Pop, dans l'enregistrement original avec la voix de François Perrier.
Il fut un temps très lointain où les instruments de musique ne se connaissaient pas entre eux. Chaque famille d'instruments vivait séparée des autres, et c'était bien dommage. Ce furent les petits violons qui, par hasard, découvrirent qu'ils n'étaient pas les seuls instruments au royaume de la musique. Vous allez apprendre comment. Les violons étaient les derniers nés d'une très ancienne famille qu'on appelait la famille des cordes. Leur bavardage était bien joli à entendre. Il y avait les petits violons qui pouvaient chanter très haut avec leurs chanterelles. Leurs grands frères, les violons alto, qui avaient déjà une voix plus grave. Leurs parents, les violoncelles, beaucoup plus gros et dont la voix se rapprochait quelquefois de celle des hommes. Il y avait aussi l'énorme grand-mère contrebasse. Oh, j'allais oublier la vieille demoiselle harpe. Elle ressemblait à un grand lance-pierre entre les branches duquel étaient tendues de longues cordes parallèles. Elle savait mieux que personne imiter le vent qui gémit, l'orage qui gronde et le chant des sources. Un beau soir, les petits violons, très excités, allèrent trouver grand-mère contrebasse. Devinez, grand-mère contrebasse, dirent les violons, devinez ce qui se passe. Nous étions en train de nous promener et de l'autre côté de la rivière, nous avons aperçu des petits instruments qui ne nous ressemblent pas du tout, mais qui parlent une très jolie musique. Ils ne sont pas en bois verni comme nous et n'ont pas de cordes. Ils sont en cuivre et ressemblent à de grandes pipes. « Comment ?» demanda l'harpe qui avait tout entendu. « Est-il possible que vous disiez vrai et qu'il existe d'autres instruments que ceux de notre belle famille des cordes ? Je suis impatiente de les connaître. Dites-leur de venir bien vite. » Et les petits violons, fous de joie, s'en furent invités les inconnus qui arrivèrent en grande pompe un matin de jeudi.
Et voilà, la famille saxophone vient de faire son entrée. C'était le début de Piccolo Saxo et Compagnie, conte musical d'André Pop sur un texte de Jean Broussol, dit par le comédien François Perrier, et cela dans l'enregistrement original que vous retrouverez dans une version remasterisée au sein d'un coffret dédié justement à l'œuvre d'André Pop. Et n'oubliez pas le rendez-vous de dimanche, ce dimanche à 11h au Théâtre des Champs-Élysées avec Juliette et la Garde républicaine, et cela dans le cadre des concerts du dimanche matin de Jeanine Rose. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorigny pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée, une soirée qui se prolonge bien entendu en musique comme tous les soirs avec Francis Drezel.